Ésaïe chapitre 50 et versets 4 à 7. Au nom de Jésus, le serviteur du Seigneur. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui faiblit. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur m'enseigne à écouter et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Et je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide. C'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme pierre. Et je sais que je n'aurai pas le dessous. Amen. Le serviteur de Yahvé, le serviteur du Seigneur. Oui, nous sommes face à un personnage mystérieux qu'on ne connaît pas trop dans la Bible, ce serviteur de Yahvé, l'Ebed Yahvé, comme on dit. On ne le connaît pas précisément. Parfois, ce terme serviteur de Yahvé indique un individu précis, comme Moïse, ou comme David, ou comme Jérémie. Parfois, ce terme est utilisé aussi pour indiquer un collectif comme Israël, qui est serviteur de Dieu. Et parfois même, on l'utilise pour exprimer un personnage mystérieux, dans le sens où on n'a aucune information sur lui, comme Melchizedek. Melchizedek, tout ce qu'on connaît de lui, il était le roi de Salem, prêtre du Très-Haut, mais à part ça, on ne le connaît pas. Mais ce qu'on connaît sur le serviteur de Dieu ici, c'est le serviteur qui souffre. Le serviteur qui souffre annoncé par Ésaïe. Et ça, c'est mystérieux. Et justement, ce mystère en lui qui nous intéresse ce matin dans cette méditation. Le mystère se situe surtout dans le fait que ce serviteur de Yahvé, ce serviteur de l'Éternel, qui est censé être le Messie qui sauve. Or, dans ce texte, on annonce que ce Ebed Yahvé va être humilié. Un Messie humilié, un Messie maltraité, insulté, moqué. Et donc, rien que cette idée-là nous rende perplexe sur son titre de Messie. Normalement, un Messie devrait être un intouchable, un Superman. Celui qui sauve est celui qui a tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, c'était aussi la logique des personnes qui passaient sur le chemin de Golgotha, rappelez-vous, en voyant Jésus agoniser à la croix. Ils se mettaient tous à se moquer de lui en disant « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi-même et descends de la croix. Toi qui as pu sortir Lazare de sa tombe, pourquoi ne peux-tu pas te sauver ?» Humainement parlant, c'est logique. Comment pourrait-on penser que ce monsieur qui agonise et qui crie sans père au secours soit le Messie ? Mais justement, le serviteur du Seigneur, comme on vient de lire tout à l'heure, il a à la fois la capacité de comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut ? C'est la mort. Mais en même temps, il a cette capacité de soutenir, d'entendre et de dire quelque chose en réponse à la souffrance et aux besoins de son peuple. Un sauveur, mes chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas juste une personne qui a des pouvoirs extraordinaires pour sortir des gens dans des situations difficiles. Pour nous, c'est ça, être un sauveur. En montrant ses muscles et ses capacités, le vrai serviteur de Dieu, le vrai sauveur, c'est celui qui a cette double capacité, en même temps de sauver, mais aussi de comprendre, de connaître la souffrance. D'un côté, il détient dans sa main gauche la volonté du Père, la volonté intransigeante, la volonté innégociable, mais en même temps, dans sa main droite, une capacité d'écoute, de compréhension sur la souffrance de l'homme. Et il arrive à jongler avec les deux, un Dieu intransigeant, mais aussi un Dieu d'amour. Cette capacité se traduit dans le fait qu'il a souffert avec nous et pour nous, versets 5 et 6. Le Christ a souffert avec nous et pour nous. Un sauveur qui n'a pas peur de subir avec nous les crachats de la société. Un sauveur qui a accepté quand on lui arrache la barbe. Rappelez-vous, ça c'est le sort réservé à une personne condamnée, jugée au temps des Juifs. C'est un peu comme dans les pratiques de certains pays où s'il y avait des femmes accusées de sorcellerie, on les a traînées en lieu public devant toute la foule. Pour les humilier, on avait rasé leur crâne. Et c'était la même chose. On lui a arraché la barbe. Jésus l'a vécu physiquement. C'était un condamné à mort. Le vrai et le seul unique serviteur de Dieu, c'est le Christ. Car il est Dieu. Il connaît la volonté de Dieu, très saint. Mais aussi, il se met aussi à la place au même niveau que les serviteurs. Il est allé jusqu'à risquer sa vie. Alors soyons fiers d'avoir un sauveur pareil, un sauveur qui connaît ce que nous ressentons, un sauveur qui connaît ce que nous vivons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Messie n'est pas un super-héros, n'est pas un Superman, n'est pas Capitaine America, comme disent les enfants. Ces personnages qui sont montrés comme des personnes qui font du bien à son entourage, peut-être, mais ces Superman, ils ne savent pas ce que les gens vivent. C'est la différence entre un Superman et un sauveur. Il a tous les pouvoirs, donc il ne vit pas la souffrance des autres. Dans le monde, il y a beaucoup de personnes avec de bonnes intentions, des milliardaires philanthropes, qui peuvent donner des millions et des milliards sans compter pour aider un pays. Mais ces gens-là, quel que soit leur cœur si généreux, ils ne comprendront jamais et ne connaîtront jamais ce que c'est que la famine, par exemple. Ils donnent pour donner à manger, mais ils n'ont jamais vécu la famine. Mais mon Messie, ton Messie à toi, avant de me donner mon pain quotidien tous les jours, il a connu la faim sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Mon Messie et ton Messie à toi a connu ce que c'est que la mort avant de nous accorder la vie éternelle. Le Jésus qui est monté au ciel fut d'abord descendu aux enfers et au séjour des morts. Voilà la logique pascale selon la parole de Jésus qui dit « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ton Dieu a vécu ce que tu as vécu. Et c'est pour ça qu'il peut te sauver. Et il faut d'abord passer par la mort. Il faut prendre la mort de l'autre pour sien. Et par la suite, donner sa vie pour l'autre. Voilà le partage impossible que Jésus a fait. C'est un vrai partage. Il a pris ta mort et il t'a donné sa vie. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est ce qui est dit tout à l'heure. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Ésaïe 53, 4. Un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui ose mouiller sa chemise pour nous. Depuis l'Ancien Testament, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu le cri de la souffrance de son peuple. Quand il a entendu le cri de son peuple qui a souffert en Égypte, qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis donc venu pour délivrer du pouvoir des Égyptiens mon peuple. J'ai entendu et je suis descendu. À chaque fois que je lis ce texte, je vois un Dieu qui se lève de son trône et qui descend. Il n'envoie pas un serviteur à sa place. Va, regarde un peu ce qui se passe là-bas. C'est lui qui a pris l'initiative de descendre. C'est l'Éternel en personne qui vient en Égypte pour délivrer son peuple. Et rappelez-vous, à un certain moment, l'Éternel ne voulait pas venir avec son peuple parce que il connaît bien que ce peuple, c'est un peuple qui n'est pas fidèle. Et il l'a suggéré à Moïse, « Voilà, je vais t'envoyer mon messager, vous allez avec lui pour entrer dans cette terre promise. » Mais Moïse n'a pas accepté cette proposition. Voilà ce que Moïse a dit dans Exode 33, 15. « Si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. » Voilà la réponse de Moïse. « Si tu renonçais à venir en personne, pas ton ange, pas ton envoyé, toi, Seigneur. » D'où la colonne de feu et la nuée. Chaque fois que Dieu se déplaçait, Israël avance. Oui, d'ici une semaine, nous allons célébrer Pâques. Là, nous pourrons comprendre ce que c'est que le serviteur qui souffre. Il doit passer par la passion pour pouvoir sauver. Il aurait pu faire ça autrement sans souffrir. On m'a toujours posé cette question-là et certaines personnes sont choquées. Pourquoi tant de violence ? Pourquoi Dieu a permis que son fils doit mourir pour nous sauver ? Est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver une autre solution ? Sans souffrir ni mourir, juste comme Joséphine, l'ange gardien, un claquement des doigts et tout le monde s'en sauvait. Il aurait pu faire ça. Il est Dieu, il a tous les pouvoirs dans les cieux, non ? Mais pourquoi il doit mourir ? Pourquoi il doit mourir ? Pourquoi il doit aller là où l'homme est ? C'est ça, sauver. Descendre là où l'homme est. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en ce moment, ou dans quel genre de circonstances tu vis, mais ce que je peux dire, c'est que tant Jésus est un Dieu qui est déjà allé jusqu'au séjour des morts, là où il y a les morts. Donc, il n'a pas peur d'aller là où tu vis. Tout est accessible pour le Seigneur. Il n'y a aucun endroit où il ne peut pas avoir accès. Alors, face à notre détresse et à notre souffrance, Dieu n'est pas un Dieu qui ne s'arrête qu'au stade de la pitié, comme les gens. « Oh, ok, tu me fais pitié. » Mais il va jusqu'à la miséricorde. C'est quoi la différence ? La miséricorde, ce n'est autre que le pardon. Le pardon, ce n'est pas juste d'effacer nos péchés, mais le pardon, si on étudie ce mot-là dans le mot hébreu, pour cela, il dit « Je prends tes fautes pour moi. » Il a aspiré nos fautes. Il y a une sorte de transfert qui s'exécute. C'est ça, pardonner. C'est-à-dire que nos péchés, il les a pris pour lui, et tandis que sa justice, il nous l'a donné gratuitement. Une sorte de mutation, c'est ça, le pardon. Et en constatant cette mutation, nous pouvons voir à quel point que le moyen qui a été utilisé pour nous justifier, chers frères et sœurs, n'est pas du tout gratuit. Le salut est gratuit, mais le prix à payer pour ton salut n'est pas gratuit. C'est sa vie. C'est très cher. Notre justification a coûté la vie du Fils de Dieu. Ne l'oublie jamais. Si un jour tu seras auprès du Père dans le royaume des cieux, rappelle-toi qu'il y avait une vie qui a été sacrifiée pour toi. Il a sacrifié son honneur. Il a sacrifié sa majesté. Il a sacrifié sa sainteté. Tout le monde le frappait. Même l'idiot du village, quand il portait sa croix, comme si c'était un criminel. On l'a piétiné, on l'a bafoué. Oui, le Dieu trois fois saint. Pourquoi alors le Seigneur va jusque-là ? Pourquoi il a vécu l'impossible? Je n'ai trouvé qu'une seule réponse dans sa parole qui dit « C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime, dit l'Éternel. Donc je donne des hommes à ta place et des peuples en échange de toi. Voilà le prix que tu as aux yeux de Dieu. La vie d'une seule personne équivaut à la vie de toute une population. Donc n'oublie pas que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen.